Vendredi 21 mai 2021, il vient d'être 17h à Niamey, l'heure du journal en français du studio Kalangou, dans une présentation de Rafika Taher. À la une, aujourd'hui, 1200 migrants, dont une soixantaine d'enfants mineurs, ont été refoulés d'Algérie. Ils sont arrivés à Agadez la semaine dernière dans des conditions difficiles. À suivre dans cette édition leurs témoignages. Les travaux de réhabilitation de la digue de protection du quartier Kirkuseuil dans le 5e arrondissement de Niamey ont démarré. À suivre dans ce journal l'appel du chef de quartier. Quel pourrait être l'impact du respect du quota dans les instances de décision après les élections au Niger? Un expert en développement répond dans la partie magazine. Commençons cette édition en bref. Suite aux actes de violence et de vandalisme perpétrés sur les ressortissants nigériens vivant en Côte d'Ivoire, un communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères et de la coopération en date du 20 mai dresse le bilan. Il fait état de 39 blessés, 290 personnes réfugiées, dont 148 à l'ambassade du Niger à Abidjan, 39 à la brigade de gendarmerie d'Abobo et 103 autres à la préfecture de police d'Abidjan. Selon le ministère nigérien des Affaires étrangères, 24 personnes ont été interpellées par les forces de sécurité et d'importants dégâts matériels enregistrés. Plus de 60 enfants nigériens, tous des mineurs non accompagnés, ont été refoulés d'Algérie la semaine dernière. Malgré leur jeune âge, ces mineurs ont été acheminés à la frontière nigérienne, selon eux, dans des conditions difficiles. Écoutons leur témoignage au micro d'Anissé Karim.
Nous avons souffert en cours de route depuis que nous avons été embarqués dans les camions jusqu'à arriver ici à Agadez. Nous avions soif, il faisait chaud. Il y a même certains parmi nous qui se sont évanouis. Il faisait très très chaud. Tout mon corps me fait mal.
Quand on nous a pris d'Alger, nous avons fait beaucoup d'escales en cours de route sous le soleil. Nous étions assoiffés. Nous ne pouvions pas nous coucher ni nous asseoir à l'aise. Nous avons supporté comme ça jusqu'à l'arrivée. Nous faisions de la mendicité. Nous sommes fiers du fait qu'on nous a ramenés. Présentement, mon corps me fait mal partout.
Quand nous avions quitté l'Algérie, nous ne sentons que de la chaleur et nous avions soif. Quand tu demandes de l'eau, on te donne seulement quelques gouttes. Quel que soit comment tu vas te coucher dans le camion, tu sentiras la chaleur. Nous avons pleuré au cours du voyage. Maintenant que nous sommes arrivés ici à Agadez, notre souhait c'est de nous acheminer chez nous auprès de nos parents.
Ces 61 enfants mineurs faisaient partie d'un groupe de 1200 migrants refoulés d'Algérie et acheminés à Agadez. Selon le divisionnaire à la Direction régionale de la protection de l'enfant, ils étaient rapidement pris en charge par les autorités nigériennes. Souleymane Issaka explique au micro d'Anissé Karim.
Actuellement, on totalise 61 enfants qui nous ont été référés. Il y a 36 filles et 25 garçons. La moyenne d'âge de ces enfants-là tourne autour de 10 ans, parce que le moins âgé doit avoir dans les 6 ans et le plus âgé doit avoir dans les 13 ou 14 ans. Ils sont arrivés dans une période très chaude. C'est dire combien, en tout cas, ils ont souffert lors de la traversée. Il y a ceux qui montrent des signes plus ou moins de déshydratation, mais quand même qui a pu être prise en charge. Et une fille âgée d'à peu près 7 ans, qui souffre d'un coup de chaleur, c'est une déshydratation un peu poussée, mais quand même qui a été prise en charge à travers le cabinet avec qui on a contractualisé en termes de prise en charge médicale de ces enfants. Et nous sommes en train de procéder à ce que nous appelons le renseignement des dossiers de protection et aussi nous sommes en train de procéder à leur retour en famille.
Le deuxième forum des partenaires du projet Gouvernance démocratique et droits humains d'Oxfam Niger se tient à Niamey. Il réunit les représentants d'une trentaine de structures nigériennes qui, durant 3 jours, vont échanger sur comment améliorer leurs actions, chacun dans son domaine d'intervention. Plus de précisions avec la chef du projet GDDH d'Oxfam Niger, Madame Gisèle Meunier, au micro de Michel Dédji.
Le projet Gouvernance démocratique et droits humains, GDDH, comme on l'appelle habituellement. Ce projet cible 31 partenaires dans 4 domaines essentiels. Nous avons les droits humains, la prévention et la gestion des conflits, la migration et l'information et les médias. Ces partenaires ne se connaissent pas toujours dans la mesure où ils interviennent dans des régions différentes. Donc ça permet de créer des synergies et de développer des complémentarités au niveau des interventions qui sont soutenues par le projet. Et nous aussi, ça nous aide dans la mesure où ça nous facilite le dialogue avec les différents partenaires de manière à ce qu'on puisse les accompagner efficacement en fonction des priorités qui sont communes.
Les travaux de construction du pipeline d'exportation de pétrole Niger-Bénin ont été lancés jeudi à Semekpoji, près de Cotonou, la capitale béninoise. Il est long de 1980 km, dont 685 au Bénin. Selon le site d'information en ligne 24aubénin.info, les travaux vont durer 2 ans et créeront 3000 emplois. Le coût de ces travaux est estimé à environ 2 300 milliards de francs CFA. Pour prévenir les éventuelles inondations durant la prochaine saison des pluies, le gouvernement a initié des travaux de réhabilitation de la digue de protection du quartier Kirkusoy dans le 5e arrondissement de la capitale. Habibou Amadou, chef de quartier de Kirkusoy, attire l'attention des riverains sur l'importance de cet ouvrage. Il est au micro de Salamatou Kadri.
Ils ont commencé les travaux de la digue il y a 7 jours. Ces travaux se font de la plus belle manière. Même hier, nous avions effectué une visite avec les maires. Vous savez, il y a deux digues. La première, qui protège les rizières au bord du fleuve, est construite par l'ONAHA. Et celle qui protège les habitations est construite par la mairie. J'attire l'attention des populations, car parfois c'est elles-mêmes qui cassent la digue. Pour évacuer les eaux, des grâces qu'elles viennent nous informer. Et nous, on informera la mairie. Ensemble, nous allons prendre les dispositions nécessaires pour protéger les populations.
La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans les régions du Niger. Dans la région d'Agadez, à Tchirozérine, le centre médical de la Sonichar a bénéficié des deux vaccins Sinopharm et AstraZeneca. Selon l'infirmière du centre médical, tout se déroule bien. Madame Ali Jamila, au micro de notre correspondant à Tchirozérine.
Depuis le 26 avril, nous avons reçu du district sanitaire de Tchirozérine 140 doses de vaccins, à savoir Sinopharm 90 doses, AstraZeneca 50 doses pour le centre médical Sonichar. En général, la vaccination se passe bien. Les gens viennent pour se faire vacciner. En effet, on a au total 89 personnes vaccinées et la vaccination continue toujours.
Le gouvernement lance des inscriptions des artisans nigériens au registre des métiers et au répertoire des entreprises artisanales. Cela rentre dans le cadre d'une politique d'orientation pour le secteur de l'artisanat. À cet effet, une cérémonie a été organisée au village artisanal de Niamey. Les détails avec Alassane Abdou, le président de la CEMANI, Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, au micro de Michel Dédji.
Pour aider le gouvernement à faire des orientations pour le secteur, il faut qu'on sache d'abord exactement les statistiques. Parce que si on doit former les artisans, il faut qu'on sache d'abord ils sont au nombre de combien. Savoir quel est leur besoin. Et après la formation, il y a la participation aux foires expositions, il y a les marchés publics. Il y a aussi beaucoup de choses pour lutter contre la pauvreté et lutter contre aussi le chômage et surtout l'immigration clandestine. La carte d'invalidité de 4 ans. Et les inscriptions se font au niveau de chaque région. La personne doit justifier son métier par un diplôme s'il en a. S'il en a pas, il peut le faire avec une attestation de fin d'apprentissage. Et surtout qu'on connaît que la majorité de nos artisans ont passé par l'État pour apprendre leur métier. Et là, on les a demandé de passer par leur structure organisée pour qu'ils leur délivrent une attestation de reconnaissance du milieu professionnel. Et même si on constate que la personne l'a eu de façon frauduleuse, la Chambre peut retirer cette carte et poursuivre cette personne qui aura une peine d'un an à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 10 000 à 100 000 francs d'amende.
Fatou, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu fais cette tête?
Tanti, tu ne vois pas cette deuxième vague qui vient encore nous frapper? Je me demande bien quand cette maladie va nous laisser en paix. Les boîtes de nuit sont encore fermées. L'accès à certains lieux reste difficile d'accès. Tout ça bouscule mon quotidien.
Pourquoi ça t'étonne? Cette deuxième vague ne me surprend pas. Les gens ne prennent toujours pas la maladie au sérieux. Malgré toutes les sensibilisations, les gens n'arrêtent pas de négliger les mesures de prévention.
Mais tante, j'aurais appris qu'il y a un nouveau vaccin contre la COVID-19. J'étais trop contente de l'apprendre. Enfin, la vie normale va reprendre. J'ai trop hâte de sortir sans bavette, serrer la main de mes amis, aller en boîte.
Hey ma petite, ne te réjouis pas trop vite. C'est vrai qu'il y a un vaccin, mais on ne connaît pas encore sa disponibilité ici au Niger, ni comment ça va se passer d'ailleurs. Pour l'instant, notre seul vaccin contre la maladie, c'est la prévention. La prévention toujours, la prévention et rien que la prévention. Tu connais ces mesures ou veux-tu que je te les rappelle?
Bien sûr ma tante, je les connais. Toujours porter ma bavette quand je sors, se laver les mains à chaque instant, respecter la distanciation entre personnes et éviter tout contact avec les gens.
Voilà, c'est bien. Commence déjà par les respecter et va vite porter ta bavette.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
L'État du Niger a ratifié une loi sur le taux de représentativité des femmes dans les postes électifs et nominatifs en 2014. En 2019, ces taux ont été revus à la hausse. Par exemple, au poste électif, ils passent de 15 à 25% et 25 à 30% pour les postes de nomination. Quel pourrait être l'impact du respect du quota dans les instances de décision? L'expert en développement, Maman Aboubakar, répond au micro de Habib Garba.
Quel est l'impact du non-respect des quotas des femmes pour le développement d'un pays?
En matière de développement, la participation de la femme, l'implication de la femme et le rôle que joue la femme est déterminant sur tous les aspects du développement. On a vu en matière d'éducation, lorsque une femme atteint un certain niveau d'instruction, on se rend compte que tous ses enfants sont épargnés des problèmes de santé et des problèmes d'éducation et d'autres problèmes qui se suivent. Et on voit bien même en termes de gestion. L'histoire a démontré qu'à beaucoup d'endroits, les postes occupés par les femmes, en tout cas, elles ont valablement joué leur rôle. Ce n'est pas pour autant dire que les hommes ne le jouent pas, mais c'est pour dire qu'elles sont aussi valables que les hommes, surtout qu'il s'agit des lois, des quotas qui leur consacrent ce droit, qu'on puisse leur offrir cette possibilité d'exercer aussi ces questions de droit.
Et si elles sont sous-représentées, quel sera l'impact?
À mon avis, le combat doit continuer parce que ça s'arrache. Les femmes et les hommes aussi, soucieux du respect des droits internationaux, on doit se mettre ensemble pour qu'on exige qu'il y ait ce quota. Et ça, c'est une lutte acharnée jusqu'à l'obtention du résultat. Il y a 20 ans, ce n'était pas possible. Même le quota des femmes n'existait pas. S'il l'a eu, on l'a mis dans le cadre d'une loi. C'est suite à des luttes. Et la lutte doit continuer jusqu'à ce que ça soit respecté intégralement.
Aujourd'hui, on peut dire que le quota est respecté. Par exemple, à l'Assemblée, elles sont au nombre de 48, les députées femmes. Qu'est-ce que ça peut changer au sein de l'institution?
Lorsque nous prenons une institution comme l'Assemblée, qui est supposée prendre les lois, des textes qui vont régir la vie de tous les citoyens, l'angle, l'appréciation dont les femmes font, elle est complètement différente de la façon dont les hommes raisonnent. Par le passé, c'était des hommes qui réfléchissaient à la place de tout le monde. Et certaines préoccupations qui concernent essentiellement les femmes ne sont pas prises en compte. Aujourd'hui, la présence des femmes au sein de certaines instances, notamment au sein de certaines portes électives comme les vice-présidences et autres, feront en sorte, ou des présidents de commission feront en sorte que, effectivement, des préoccupations des femmes soient prises en compte. Seules les femmes, en discutant avec leur père ou leur sœur femme, arrivent à identifier et à relever les préoccupations que vivent les femmes. Et si ça doit faire objet de loi, c'est à elles de le promouvoir pour que des lois soient prises pour aider effectivement à prendre en compte les préoccupations des femmes.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous aurez Habib Ahmed pour la présentation du journal en tamashek. Bonne réception.